Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Il est dit au verset 27, et ça rejoint un peu ce qu'on a entendu ce matin, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Trois petits versets par rapport à ce qu'on avait étudié les autres fois, mais trois versets qui ont leur importance puisqu'il s'agit du combat du chrétien. Est-ce que la vie chrétienne est facile tout le temps? C'est un combat. En tout cas, c'est une lutte, peut-être pas en France à ce point-là, mais dans certains pays, c'est vraiment un vrai combat. Paul avait déjà démontré un amour et un témoignage qu'il avait en toutes circonstances et qu'il a porté quoi qu'il arrive. Et maintenant, il rappelle aux Philippiens que la vie chrétienne, justement, c'est un combat. Et lui, étant en prison, il le démontre réellement. Quand on parle de combat, là, j'ai un témoignage d'une mère chrétienne palestinienne et d'essayer de comprendre des fois la difficulté que c'est. Je vais dire simplement, c'est dans un livre qui s'appelle « Leçon de souffrance ». Elle dit en octobre 2000, l'intifada, le soulèvement, avait commencé depuis trois semaines. À ce moment-là, le nombre de Palestiniens tués s'est élevé à 120. Aux abords de Bethléem, des jeunes en rang jetaient des pierres aux soldats israéliens, mais les enfants de chrétiens palestiniens ne se trouvaient pas parmi eux. Les parents des enfants qui jetaient des pierres vinrent frapper à la porte d'une mère de famille chrétienne pour lui dire « N'es-tu pas une patriote? N'aimes-tu pas la Palestine? Demain, si tes enfants ne jettent pas de pierres, nous saurons ce que tu es vraiment, une sympathisante des Israéliens. Alors nous brûlerons ta voiture. » Sommes désespérés, me confia cette femme. Nous n'aimons pas davantage l'implantation des colons israéliens que les autres Palestiniens, mais nous sommes suspects parce que nous refusons d'agir comme certains extrémistes. Je suis las de devoir prouver chaque jour aux musulmans que le fait d'être chrétienne ne fait pas de moi une adepte pro-israélienne pour autant. C'est ce qu'on appelle vivre au cœur du combat. Voilà les choix auxquels les chrétiens persécutés sont confrontés. Dois-je laisser mon enfant jeter des pierres et peut-être se faire tuer par un soldat? Ou bien faut-il accepter de voir ma voiture brûlée, mon enfant se faire brutaliser, ma famille traitée en paria par nos voisins? Des choix aussi difficiles ont conduit bon nombre de chrétiens palestiniens à l'exode. Vous imaginez ce que ça doit être pour le cœur d'une mère, choisir entre les deux. C'est pas évident. Et ça, c'est un combat que des gens mènent actuellement, aujourd'hui, comme cela dans beaucoup de pays. On se plaint des fois d'être chrétien. C'est difficile d'être chrétien, d'aller à l'église et tout ça. Je crois que c'est loin d'être difficile dans notre pays. Mais Paul rappelle que même si lui, parce qu'il est en prison, il est faible, il appelle quand même au combat. On pourrait dire des fois, j'ai plus de force, je suis fatigué, je vais arrêter de me battre. Eh bien non, justement, même dans la faiblesse, on est appelé à se battre en tant que chrétien. Et on connaît tout ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Vous connaissez, je n'ai pas retrouvé où il était, mais un jour, ce serait bien qu'on le chante. Et j'aimerais ce matin qu'on apprenne justement à combattre comme Paul, et on va voir plusieurs choses. La première qu'on apprend dans le verset 27, c'est qu'il nous demande d'avoir une conduite digne dans le combat. Ce n'est pas Paul, c'est le Seigneur, évidemment, qui nous demande de faire cela. Il dit « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Le verbe « se conduire » a quelque chose de particulier. Parce qu'en fait, « se conduire », c'est se conduire comme un citoyen qui est capable en fait, de reconnaître les lois. C'est comme nous, en tant que citoyens de la France, on a une certaine conduite à avoir vis-à-vis de notre pays. Le mot « politéia », le verbe plutôt « politéia », c'est un mot qui est constitué de la même famille que « polis ». Alors pour ceux qui aiment bien un peu le grec, c'est la cité. Donc il y a une relation en fait entre ce verbe « conduire » et la relation que j'ai finalement avec la cité, avec mon environnement. Si vous connaissez Philippiens 3:20, il est dit que nous sommes des citoyens des cieux. Vous n'habitez pas en France en fait. Sur votre carte d'identité, vous avez « citoyen des cieux ». C'est encore votre passeport en France, mais quelque part, il y a déjà marqué que vous êtes « citoyen des cieux ». Et c'est comme ça là qu'il faut se conduire comme un citoyen du ciel. Et là, ça change complètement. Je ne vais pas me conduire comme un Français ou comme un Allemand ou je ne sais pas quoi. Je vais me conduire comme un citoyen du ciel. Et pour les Philippiens, ça leur parlait parce qu'ils avaient acquis justement cette citoyenneté romaine. Donc j'avais trouvé un petit résumé de Philippe, comment cette ville est devenue romaine, ou au moins sous l'emprise des Romains. Il est dit au 1er siècle, Philippe, témoin des guerres civiles romaines. C'était une ville, hein, qui était là et voyait toutes les guerres. En 42, Octavien et Antoine écrasent Brutus et Cassius, qui va être le meurtrier de César, si vous aimez l'histoire. Hein. Il y aura une interrogation écrite tout à l'heure. Hein. Ensuite, Antoine va libérer une partie des vétérans et leur donnera la terre à Philippe. Ainsi, la cité devint romaine. On l'appellera la Colonia Julia Philippensis. C'est quand même mieux Philippe. Hein. Mais bon. La ville se transforme tout doucement en municipe, c'est-à-dire une administration calquée sur le modèle romain, d'où elle jouit, qu'on appelle le Jus Italicum. J'explique, c'est Jus Italicum, c'est des statuts qui présentaient des avantages évidents. Par exemple, la cité avait le droit de se gouverner elle-même, et pas par Rome. Sous la conduite de deux magistrats, elle avait son sénat, ses assemblées propres à elle, ses magistrats. Elle était dispensée du tribut de Rome et de certains impôts, des quelques avantages qu'ils avaient, et le droit de propriété stricte lui était reconnu. Enfin, comme Rome, la ville possédait son enceinte sacrée, son capitole, où était célébré le culte des dieux capitolins. Bref. En fait, quand Paul leur disait « conduisez-vous », ils devaient comprendre déjà l'acquis qu'ils avaient en tant que placés sous ce Jus Italicum. Hein, ils avaient des avantages. Et en tant que, on va dire, romains, entre guillemets, sous l'emprise romaine, ils avaient une façon de se conduire. De la même manière, il leur explique que nous sommes citoyens des cieux et qu'on ne va pas agir comme on a envie dans notre vie. Et il faut vraiment se souvenir qu'on représente le ciel, on représente Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit au travers de notre vie au quotidien ? Dieu ou la France, on va dire. Et Paul appelle à mener une vie digne de l'évangile de Christ. Le mot digne est aussi important là, hein, je suis désolé, mais c'est tellement important ces petits mots. Le mot digne, c'est la fonction, la charge qui donne un rang éminent à une personne. Conduisez-vous d'une façon digne. Vous êtes citoyen et vous avez un rang particulier en tant que chrétien. La classe, non ? Non, vous avez déjà dit, tiens, je suis chrétien, et puis c'est quand même quelque chose de digne que j'ai, moi, là, en tant que chrétien, ou alors, voilà, je suis chrétien, et puis je vis comme tout le monde, quoi. Non, c'est pour ça que j'insiste un peu sur les mots. J'ai un rang éminent, quelque part, en tant que citoyen du ciel. Donc je dois mener une vie digne de citoyen céleste, un peu comme Jésus l'a fait quand il est venu sur la terre. Paul pousse loin, quand même, notre conduite. Hein. Je ne vais pas me conduire comme un chrétien, comme ça, mais je vais me conduire comme Jésus-Christ, c'est... Oui, dans la mesure, évidemment, de ce que l'on peut faire. Hein. On n'est pas Jésus non plus. Mais une conduite qui reflète ce que nous annonçons. Si j'annonce l'évangile, si j'annonce d'aimer mon prochain comme moi-même, et que je m'en fiche de tout le monde, que j'insulte tout le monde, que je ne prends pas le temps d'aimer les gens, finalement, je fais un peu honte à ma citoyenneté, hein, et je ne présente pas l'évangile comme il est. Il nous arrive bien souvent de nous mal conduire, hélas, hein, et d'avoir un mauvais témoignage de l'évangile. Hélas, ça nous arrive parfois. Paul dit une conduite en toutes circonstances. Il est malin, vous connaissez les gens. Hein. D'abord dans sa présence, hein. Bon, à l'époque quand il était à Philippe, mais c'est un peu pour nous aussi comment nous conduisons devant les chrétiens. Généralement, on se conduit bien, hein, dans la mesure. Hein. Et dit de se conduire bien en présence des chrétiens et pas de vivre seulement sous l'apparence. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont une double identité à l'église. Quatre chrétiens, hein. Et puis quand on sort et qu'on les voit dans leur intimité, ça n'a plus rien à voir. Il y avait une histoire comme ça d'un couple qui allait visiter un autre couple. Et ce couple-là, dans la maison, ils étaient en train de se battre, se jeter les casseroles. Et... Bref, c'était une vraie catastrophe. Et puis ding-dong, le couple arrive et puis le grand sourire évangélique. On s'installe, on discute de Jésus-Christ et tout cela. Ils se tiennent même le petit doigt, hein, à un moment. Et puis bon, la fin du... De la petite réunion s'arrête, et puis le couple s'en va, et puis les deux autres, ils reprennent avec leur casserole sur la tête, et le couple qui part, il dit, t'as vu comme ils s'aiment, ils se tenaient même le petit doigt. Une double vie, des fois. Une manière de se conduire à l'église, et une manière de se conduire dans la vie, au travail, ou ailleurs. Paul ne veut pas qu'on agisse comme cela. Il veut qu'on se conduise correctement, où que l'on soit. Et pas stimulé seulement par Paul, hein, parce que des fois on est stimulé par, dans notre vie chrétienne par les chrétiens, par le pasteur ou je ne sais pas quoi, mais Paul ne veut pas que ça. Il veut que les chrétiens soient stimulés par leur propre vie chrétienne, par leur relation avec le Seigneur, avec une relation authentique de Jésus-Christ. On n'a pas besoin normalement des autres, enfin, on s'aide les uns les autres, mais on n'a pas besoin des autres normalement pour avancer avec Jésus-Christ. Imaginez que vous êtes chrétien, que vous vous retrouvez sur une île déserte. Vous n'allez pas m'appeler toutes les 30 secondes, non ? Sinon, il n'y a pas de réseau, donc. Hein. Mais je dois moi-même être stimulé par la relation que j'ai à avec le Seigneur. Et pas seulement devant les autres. Hein. On aime prier, on aime chanter quand on est à l'église. Et le lundi, la Bible, je ne sais même pas où elle est. Et il dit aussi, mais aussi durant l'absence de Paul, loin des chrétiens, comment est-ce que j'agis quand je suis seul dans ma famille, dans ma chambre, dans ma vie intime? Est-ce que je me conduis comme Dieu voudrait que je me conduise? Parce que des fois, on se dit, les chrétiens ne me voient pas, mais Dieu me voit. Lui, il est omniprésent, omniscient, il voit absolument tout, je ne peux rien lui cacher. Et en même temps, être stimulé par soi-même en devenant moi-même maintenant l'énergie pour les autres. C'est bien de toujours vouloir, aide-moi dans ma vie chrétienne, c'est difficile, etc. Mais à un moment, il faut moi aussi que j'aide les autres, et que je donne une source d'encouragement pour mes frères et pour mes sœurs. C'est vrai que quand on est jeune chrétien, on a besoin d'être aidé. Mais quand on est un vieux chrétien de 20 ans, je pense qu'à un moment, je peux devenir vraiment quelqu'un, un mentor pour quelqu'un, et vraiment le stimuler dans sa vie chrétienne. Donc Paul dit que le monde sache que nous sommes citoyens du ciel. Ouais, vraiment, pour avoir l'affiché quelque part, citoyen du ciel. C'est quoi un citoyen du ciel? Je vais t'expliquer la bonne nouvelle. Mais citoyen du ciel aussi dans les combats et dans les difficultés. On veut bien l'être quand tout va bien. Là, il n'y a aucun problème. Mais quand tout va mal, quand mes collègues sont pénibles, quand mon patron me saoule ou je ne sais pas quoi, là, des fois, on redevient citoyen français. Un bon râleur, comme on aime. Deuxième chose qu'on apprend dans le texte, c'est savoir combattre ensemble. Parce que dans le combat du chrétien, ce n'est pas quelque chose qu'on va mener tout seul. Et ça, c'est intéressant. Et Paul va employer des termes militaires, en fait, ou sportifs. Il en emploie quatre, par exemple. Il dit, il faut tenir ferme, il faut être des combattants, il faut savoir qu'il y a des adversaires, on va parler tout à l'heure, et il faut aussi apprendre à combattre. Ce n'est pas juste le petit combat, on va lutter en tant que chrétien tranquillement dans notre vie. Il y a vraiment, je ne sais pas pour ceux qui ont fait le service militaire, je ne sais pas, il y en a quelques-uns. Voilà, enfin... Encore le service, c'est pas vraiment terrible. Mais il y a vraiment, là, on est dans l'armée et on se met à se battre, mais réellement. Le langage appartient en fait à la guerre ou à la compétition sportive, mais qui était une compétition sans merci. Voilà. C'est pas juste on se bat, on fait une petite compétition, on fait une petite course. Non, il y avait vraiment quelque chose de sans merci. Il y a une vraie lutte dans les mots qu'il emploie là. Parce que la vie chrétienne est un combat rude. C'est pas toujours simple de combattre. Mais il est en train de dire qu'il faut apprendre à combattre ensemble. Il dit tenir ferme dans un même esprit au verset 27, la deuxième partie. Tenir ferme, ça rappelle en fait le soldat qui ne cède pas un pouce de terrain. Je vais me battre jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et je vais résister au diable, à l'ennemi, à tout ce qui m'embête. Je ne vais pas simplement chaque fois craquer et dire « Ah, je ne suis pas assez fort ». Vous êtes assez fort et vous allez savoir pourquoi. Et si j'ai cette possibilité de tenir ferme, c'est sûrement pas à cause de moi. À moins que vous soyez très fort spirituellement, moi je ne suis pas. Mais cela vient de Dieu tout simplement. Et quand on parle de prière, de lire la Bible, d'obéir, etc., c'est justement là où on va voir si vous êtes vraiment des gens qui lisaient la Bible, qui prenaient le temps de prier, qui avaient une vraie relation avec Dieu. Si vous lâchez tout de suite, on a très bien compris qu'est-ce qui se passe dans votre relation avec Dieu. Mais si vous résistez, alors là, les choses vont être différentes. Et en parlant de résister, vous connaissez Marie Durand? Il y en a peut-être. Je vais lire son histoire, une femme qui a résisté, justement. Marie Durand est née le 15 juillet 1711 en Boucher, dans l'Ardèche, on va dire. Allez, c'est plus simple. Elle n'avait que 18 ans quand elle est arrêtée et emprisonnée dans la cour de Constance à Aigues-Mortes. Vous avez déjà peut-être visité ça un jour. Depuis la révocation de l'édit de Nantes en 1685, le protestantisme est interdit en France. Ça peut arriver un jour, on n'a plus le droit de se réunir. Ceux qui continuent à célébrer le culte dans des assemblées secrètes sont arrêtés. Marie, qui était issue d'une famille de notables de Vivarais, n'a plus revu sa mère depuis l'âge de 4 ans. Celle-ci a été arrêtée après avoir reçu une assemblée illicite dans sa maison. Déjà perdu sa maman. Son frère, Pierre Durand, était pasteur et à ce titre, il est poursuivi par l'intendant de Bernage qui, ne pouvant le saisir, se venge sur sa famille. Père Étienne Durand est emprisonné en 1728 au fort de Brescou, près d'Adge, confie Marie avant de partir à Mathieu Serre, qu'elle est confiée à ce fameux Mathieu qu'elle va épouser. En 1730, les dragons du roi saisissent Mathieu Serre, qui rejoint Étienne Durand au fort de Brescou, et Marie Durand qui est enfermée à la tour de Constance. Pierre, âgé de 30 ans, est pendu le 22 avril 1732 sur l'esplanade de Montpellier. Son père ne sort de prison qu'en 1743, bien après. La captivité de Marie Durand va durer 38 ans. Quelqu'un a 18 ans là? Vous êtes prêt à passer 18 ans en prison à cause de votre foi? Enfermée avec une vingtaine d'autres femmes de tout âge et de toutes conditions, elle va vivre dans la pauvreté, le froid, la promiscuité. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le chauffage dans les prisons. On attribue à Marie le mot « régister », qui veut dire « résister » en occitan. Elle l'aurait gravé dans la pierre d'une margelle au centre de la salle commune. Résister, c'est ce qu'elle va faire, Marie Durand, tout au long de sa captivité, refusant toujours d'abjurer sa foi, exhortant ses compagnes et écrivant de nombreuses lettres. En janvier 1767, le prince de Beauvau, gouverneur de Languedoc, visite la tour. Il est révolté par le sort des femmes encore emprisonnées et les libère. Un ministre de Louis XV essaie de s'y opposer. De Beauvau offre sa démission. 14 femmes seront alors libérées, dont une, qui s'appelait Marie Robert, avait été enfermée 41 ans dans cette tour. Marie Durand sera libérée le 14 avril 1768 et il faudra attendre le 26 décembre 1768 pour que les deux dernières prisonnières soient libérées. Marie Durand va mourir dans sa maison natale en 1776. Elle n'a pas eu beaucoup de vie, en fait. Mais elle avait gravé un mot « résister ». Et parce qu'elle avait une vraie foi, parce qu'elle connaissait vraiment Jésus-Christ, parce qu'elle avait une relation avec Christ, elle était capable de vivre dans cette circonstance-là. Souvent, on est triste quand les choses ne sont pas comme on voudrait, parce qu'on croit que ça devrait être comme ça, notre vie. Ben, Dieu permet des fois de nous mettre dans une tour pendant des années et des années. Et celui qui apprend à vivre vraiment une relation avec Dieu s'en fiche de ce qu'il y a autour, comme Paul à ce moment-là. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la voiture qui est importante dans sa vie. C'est justement de résister et de poursuivre cette relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on est capable de résister, quoi qu'il nous arrive. Il ne faut pas baisser les bras. C'est souvent parce qu'on a envie d'une vie comme cela, mais Dieu des fois dit « non, ça va être comme cela ». Et elle est un témoignage pour nous, bien des années après. Si un jour vous êtes dans une tour, pensez à cette dame-là. Je ne vous le souhaite pas de passer 38 ans, évidemment, mais commencez à écrire aussi, résister tous les jours un petit peu. On fera un deuxième. Donc, tenir ferme. Mais le mot « tenir ferme », il dit « dans un même esprit ». C'est-à-dire, on pourrait penser que c'est dans l'esprit de Dieu ou avec mon esprit en tant qu'homme, mais moi je dirais clairement, on va unir les deux. C'est mon esprit qui est soumis à l'esprit de Dieu. Et c'est comme cela que je vais combattre efficacement. Et tenir ensemble aussi, unis dans le combat. Vous savez, quand on se dispute, quand on a des différends les uns avec les autres, l'adversaire, il se régale. Ah oui, diviser pour mieux régner. Mais si on est vraiment unis, qu'on combatte d'un même cœur, alors là, le combat devient beaucoup plus facile. Il dit encore Paul, combattre d'une même âme pour la foi en l'évangile. Le mot combattre, là, c'est un peu différent qu'à la fin du verset 30. Là, c'est plutôt dans le sens de lutter en même temps avec un autre. C'est pas se battre tout seul. Là, il dit combattez, mais prends quelqu'un avec toi. Prends les autres avec toi, tout simplement. Et on va lutter ensemble. Il s'agit donc d'un combat de communauté. Est-ce qu'on combat tous pour cette église? Est-ce qu'on a vraiment tous à cœur cette église? Ou on dit de toute façon, le pasteur il va préparer cette église, il va s'en occuper, et puis c'est son boulot de toute façon, on n'a qu'à se débrouiller. Mais là, moi, si je vous demande de combattre avec moi, ça veut dire je vous prends la main. Et on va tous combattre pour cette église, pour qu'elle grandisse, qu'elle mûrisse, etc., etc. C'est donc l'idée d'un combat de la communauté, et tout cela pour la foi en l'évangile. À partir du moment que je suis devenu chrétien, Dieu m'a confié un dépôt, il le dit en Timothée. C'est la doctrine, tout simplement. C'est la foi que la Bible nous apporte. Et il me l'a confié à moi, mais il vous la confie aussi. Et qu'est-ce qu'on va en faire? On la pose sur une étagère, cette Bible, cette foi. Qu'est-ce qu'on doit en faire? La vivre, l'annoncer, la partager. Dieu ne m'a pas confié, cette grâce, puisque c'est le cœur de la Bible. Il ne m'a pas confié la Bible juste pour que je la lise et pour que je la garde pour moi. Il veut aussi que je l'apporte aux autres. Et je dois combattre, justement, dans ce sens-là, pour la foi de l'Évangile. Je dois parler du salut quand des gens se moquent de Jésus-Christ, par exemple. Je dois reprendre ceux qui se trompent, peut-être, sur certaines doctrines. Mais pour ça, évidemment, il faut que je la connaisse. Combattre pour la foi en l'Évangile, c'est défendre et propager la bonne nouvelle, mais toujours dans l'unité et la paix de Christ. Si des gens ne sont pas d'accord avec vous, on ne va pas leur taper dessus. On va apporter avec amour la correction s'ils sont prêts à écouter. Toujours dans l'unité, c'est-à-dire on est tous d'accord, mais aussi dans la paix que Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur est venu, il a pas crié sur ceux qui disaient des erreurs ou des choses comme cela. Il est venu tranquillement, il avait des bons mots, au bon moment, vous allez me dire c'est Jésus. Oui, mais La Bible nous dit aussi qu'on peut demander au Saint-Esprit de nous aider dans ces moments-là. Mais on veut transmettre cet évangile. Et c'est facile de parler de Jésus aux gens. Bonjour. Allez, demain, à vos collègues, bonjour. Je veux te faire connaître Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Qu'est-ce qu'il va dire, votre collègue? Ah ouais, j'en veux. C'est dur, hein? C'est dur. Et des années après, vous avez beau en parler, vous avez beau prier avec ces gens-là, ça devient vraiment une lutte. Et on ne voit rien, des fois. C'est un vrai combat. Et Paul, justement, demande de savoir combattre. Déjà là, c'est individuellement, mais si les uns et les autres priaient pour ces combats individuels, pour chacun d'entre nous, là où on est, je pense que ça changerait beaucoup, à mon avis. Et ça irait peut-être plus vite. Défendre l'évangile est un combat que nous devons mener unis. Et quand on est plusieurs, on est plus fort. C'est vrai? Pourquoi on est si peu à la réunion de prière? Pourquoi on est si peu aux études bibliques? Pourquoi des fois on se dit, bon, dimanche, je ne suis pas légaliste, on est bien d'accord, mais je m'entends. Si vraiment on est plus fort, pourquoi on n'est pas ensemble pour faire ces choses-là? Et vous verrez, les choses quand même vont changer. Troisième chose qu'on voit dans ce texte, c'est combattre, qui signifie aussi avoir des adversaires. Parce que si je lutte, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en face de moi et qui m'embête. Alors, qui sont les adversaires de Paul? On ne sait pas très bien. Peut-être c'était des faux docteurs, les gens qui l'embêtaient à ce moment-là. Peut-être ceux qui persécutaient les chrétiens. Mais est-ce que nous avons des adversaires, nous, aujourd'hui? Qui? Pas le pasteur. C'est qui, mes adversaires? Qui ça? Nous-mêmes, ouais. Si vous combattez, vous devriez connaître vos adversaires. Vous n'avez aucun adversaire, c'est génial. Le matérialisme est un adversaire. La maison, quand ça en devient une idole. La moquerie, c'est un adversaire parce qu'on est peut-être des chrétiens, mais des fois on se moque, ou on a des mauvaises pensées vis-à-vis de quelqu'un, c'est mon adversaire. La religion, c'est pas parce que je suis sauvé par grâce, etc., que je n'ai pas aussi des fois une forme de religiosité. Je viens à l'église parce qu'il faut venir à l'église, etc. Mais si je ne viens pas avec un cœur qui a envie de rendre grâce à Dieu, c'est la religion, quelque part. Les mœurs, tout doucement, ils entrent dans l'église. Ça, c'est un sacré adversaire. Hein. Imaginez qu'il y a des églises où on accepte des femmes pasteurs homosexuelles. C'est un adversaire. Et ne croyez pas que ça ne va pas frapper un jour à la porte ici. Est-ce qu'on est prêt à se défendre et à combattre? Le diable est notre adversaire. Ah, celui-là. Les sectes sont des adversaires. Et j'irais même dire, les évangéliques sont parfois des adversaires à cause de leur doctrine, à cause du témoignage tellement mauvais qu'ils donnent. C'est marrant que la télé va toujours voir ces gens-là plutôt qu'aller voir des églises qui sont correctes. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tout le monde tombe par terre. Voilà, des adversaires, hélas, on n'est qu'une toute petite liste. On a un tas d'adversaires. Le pire, je pense, c'est nous-mêmes, comme tu disais, Jeanne. Mais il y en a bien d'autres. Mais les adversaires rappellent qu'il existe donc de nombreux adversaires et qui sont prêts à me faire du tort. On va croire que le lundi, je pars tranquillement, c'est la belle vie, je suis chrétien, etc. Au fur et à mesure, je vais bien vite me rendre compte que j'ai des soucis, des adversaires, des gens qui vont s'opposer peut-être à moi d'une manière ou d'une autre. Mais Paul dit, il ne faut pas se laisser effrayer par les adversaires. Et le mot effrayer, là, c'est vraiment un effroi qui provoque la mort. Ou la prison, peut-être. Donc, il dit, et certainement qu'à l'époque, ou quand on est persécuté, bah, l'adversaire peut vraiment nous effrayer à la mort. Hein. On peut vraiment avoir peur. Si quelqu'un rentrait là et il avait un fusil, à mon avis, on ne dirait pas « Jésus t'aime hein. ». À mon avis, on aurait vraiment peur. Et ça peut arriver aussi, hélas. Mais il ne faut pas se laisser effrayer par ses adversaires. Le diable veut nous effrayer, et des fois, il nous ment. Il dit, tu sais, c'est dur la vie chrétienne. Oh, là, c'est dur de venir le dimanche matin. Ah, il est bien ton lit, non? Il fait chaud, c'est agréable. Et il fait cela dans bien, bien des domaines. Et il me ment aussi parce que des fois, dans le combat, dans l'épreuve, il dit, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible. Regarde, il t'a abandonné. Et ouais, il y a une chose à dire là-dessus. Le diable nous ment dans ces choses-là parce que le Seigneur nous dit qu'on peut combattre, qu'on peut être victorieux dans le combat. Parce que Dieu est tout simplement souverain. Paul, il est en prison, il pleurnichait pas parce qu'il ne pouvait pas avoir la télé, parce qu'il ne pouvait pas faire ci ou ça, des loisirs. Il avait accepté ce que Dieu avait décidé pour lui, parce que Dieu, il savait qu'il était souverain, il savait ce qu'il faisait avec lui à ce moment-là. Et quand on accepte la souveraineté de Dieu dans notre vie, eh bien on accepte aussi le plan de Dieu, et là on ne râle pas. Là on avance, et on devient un chrétien utile. des adversaires parfois aussi qui sont employés par Dieu. Et là, j'ai trouvé une petite histoire rigolote. Alors, ce n'est pas vrai ce que je vais vous lire, hein, mais l'histoire, vous allez comprendre. Alors, quelqu'un disait, lorsque Noé bâtit son arche, il n'oublia qu'une seule chose, un clou. C'est pas vrai, non, la barque, mais bon, c'est pour l'histoire. Il avait planté beaucoup de clous, ou plutôt des chevilles en bois, comme cela se faisait à l'époque, mais il avait oublié une. Le problème, c'est que son emplacement était en dessous de la ligne de flottaison. Si le flot arrivait, l'arche coulerait sans aucun doute. Dieu essaya d'en parler à Noé, mais il était bien trop affairé à gérer la venue de tous les animaux. Le diable vint à passer et vit Noé faisant entrer les animaux dans l'arche. Il se demanda ce qui se passait et décida d'aller voir un peu plus près. Comme il ne pouvait pas passer simplement devant Noé dans sa véritable apparence, il se déguisa en serpent. Il se glissa à l'intérieur de l'arche par le trou de la cheville manquante. Une fois à l'intérieur, il laissa ses yeux s'habituer à l'obscurité, il avait faim et il avala une grenouille qui passait par là. Au moment où il manigançait de commettre des actes de plus en plus malveillants, il vit Noé lever les bras pour bénir tous les animaux. À vrai dire, le diable n'avait aucune intention de s'attarder sur les lieux au moment d'une bénédiction. On est bien d'accord. C'est pourquoi il se glissa à nouveau dans le trou par lequel il était entré. Seulement, cette fois, il était plus gros à cause de la grenouille qu'il avait avalée. Au dehors, la pluie arriva, mais l'arche restait à flot grâce au diable qui bouchait le trou. Alors, à la question « Quel est le meilleur et le pire clou de l'arche? » Hein, la réponse est évidemment le diable à ce moment-là. Il continue hein, dans le texte. Je me souviens du petit rire timide des auditeurs écossais en entendant cette image. Hein. Les Chinois n'étaient pas si retenus, oua, s'exclamait-il, et ils savaient de quoi ils riaient. Beaucoup d'entre eux avaient vécu sous Mao, à l'époque où ils tentaient d'anéantir l'Église, mais avaient contribué à vivre pour voir que Mao, par la providence de Dieu, avait tout simplement pavé la route du réveil, en fait, hein, en Chine. Vraiment, Dieu est grand car il peut transformer même le mal en bénédiction. Chaque chrétien persécuté doit tenir compte de ce principe face à l'ampleur du mal qui l'entoure. Dieu peut-être, là où le diable semble être un adversaire vraiment acharné, il peut retourner toutes les situations en faveur de nous. Donc, il n'y a plus rien à craindre, tout simplement. Alors, je précise, hein, cette histoire de l'arche, c'est faux, on est bien d'accord. Hein. Mais l'image est belle, je trouvais. Donc, ne pas se laisser effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition. Alors, on peut se poser la question, mais c'est quoi cette preuve de perdition? La foi, l'opposition, le fait de tenir ferme. Quelqu'un écrivait, c'est qu'une minorité trouve en Dieu la force de résister, et c'est le signe que les événements se déroulent selon le plan de Dieu, qu'au dernier jour ordonnera le jugement des incrédules et le salut des croyants. La résistance des chrétiens démontre que Dieu est souverain sur le monde et sur le diable. Et tous ces chrétiens qui ont résisté depuis l'Église primitive jusqu'à aujourd'hui ont démontré que Dieu est souverain et que c'est lui qui dirige ce monde-là. La victoire du chrétien prouve aussi qu'un jour les ennemis vont être jugés. Dans 2 Thessaloniciens 1, 4 à 6, il est dit « Aussi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu » à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Quand vous souffrez quelque part, Dieu est aussi honoré, parce qu'on sait que c'est lui quand même qui aura la victoire à la fin. Et si on est face à un ennemi et qu'on a l'impression qu'il a gagné, non, il n'a pas gagné, parce qu'à la fin, c'est Dieu qui aura de toute façon le dernier mot. C'est peut-être l'apparence de la victoire, mais à la fin, c'est Dieu qui aura le dernier mot. La persécution fait partie aussi du dessein de Dieu pour le croyant. On ne vient pas à chrétien simplement pour être chrétien, profiter de sa vie, sa petite maison, son petit boulot, etc. La persécution fait partie aussi de cette vie chrétienne. Ça, on l'aime moins déjà dans notre vie. Pour l'instant, on ne la vit pas trop, et heureusement, merci Seigneur. Mais il faut quand même, de temps en temps, s'arrêter et s'en rendre compte. Si vraiment l'Église était persécutée demain, qu'on nous jetait en prison, qu'on nous mettait à mort, qui serait là dimanche prochain? Je ne sais pas. Mais elle fait partie du dessein de Dieu. Le chrétien devrait comprendre une chose aussi, c'est parce qu'en tant que chrétien, il devient d'une certaine manière une pierre d'achoppement aussi pour les ennemis. Hein? Jésus-Christ, autrefois, a été une pierre d'achoppement pour tous ces juifs à ce moment-là. Et tout le monde chutait à cause de lui, mais nous aussi, on peut devenir une pierre d'achoppement pour les adversaires. Il est preuve de perdition parce que le chrétien annonce la bonne nouvelle, mais en même temps, il annonce l'enfer. Hein? Quand j'annonce l'évangile à quelqu'un, et si j'ai l'occasion avec beaucoup de boité, on va dire, hein, comme certains j'ai entendu, mais quand j'annonce l'évangile, je dis aussi qu'il y a un risque pour cette personne d'aller en enfer. Et oui, il ne faut pas oublier de leur dire. Hein. Si vous annoncez que Christ, eh bien, mais dites qu'il y a un risque aussi de le refuser, parce que sinon ça ne sert à rien. Jésus a annoncé plus, a parlé plus de l'enfer quand il était sur la terre que du ciel. C'est parce qu'il y a un risque et parce qu'il veut justement nous l'éviter. Et donc, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Dans chaque combat victorieux, le chrétien renforce sa foi dans le salut à venir. Chaque fois que j'ai des difficultés, chaque fois que je m'en sors, je renforce ma foi et je me dis, de toute façon, un jour, je vais être avec le Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez bien me faire à moi ? Alors, venez pas m'embêter exprès. Hein. On est bien d'accord. Mais c'est ça, l'idée. Et Paul était en prison. Allez-y, hein, embêtez-moi en prison, faites-moi du tort à l'extérieur, etc. Moi, je sais où je vais. Vous êtes en fait en train de renforcer ma foi, tout simplement. Le chrétien sera peut-être persécuté, mais trouvera la force de combattre parce qu'il sait où il va. Le non-croyant, lui, a peur de mourir parce qu'il ne sait pas où il va. Et donc, bon, il y en a qui ont le courage pour leurs opinions de mourir, mais bon, il ne sait pas où il va. Mais nous, le chrétien, j'ai presque envie de dire, il se réjouit de mourir. À l'exemple de Paul la dernière fois, où il disait hein, « je ne sais pas trop quoi choisir, je préférais partir parce que c'est beaucoup meilleur d'aller vers le Seigneur ». Mais je ne vais pas dire qu'on va se réjouir de mourir, parce qu'on n'est pas maso non plus. Mais je veux dire dans le sens où on sait très bien où on va aller. Si on meurt demain, écoutez, il n'y a que l'éternité qui nous attend avec un nouveau corps. Être dans la présence de Jésus, c'est pas mal, non ? C'est quand même mieux que d'aller travailler 35 heures par semaine, si ce n'est pas plus. C'est pas bon. Moi, je préfère ça. Mais en attendant. Nous avons des adversaires, mais nous avons la victoire assurée par Dieu qui est souverain. Et il ne faut jamais baisser les bras quand c'est difficile dans votre vie, quand il y a un collègue qui vous... quelqu'un qui vous embête. Priez pour lui, comme on l'a entendu. Priez pour lui. C'est votre ennemi peut-être, mais priez pour lui. Et voyez là que vous avez la victoire en Christ. À la fin, c'est lui de toute façon qui remportera la victoire. Puis une dernière chose, Paul dit « combattre avec la grâce que Dieu nous donne », verset 29. Le combat, il est possible, pas parce qu'il vient de moi ou parce que moi j'ai de la force, là on aurait tous perdu, on serait je ne sais pas où, mais il est possible parce que ça vient de Dieu. Cette preuve de salut et de perdition ne vient que de Dieu et de sa parole. J'ai l'assurance de mon salut à cause de la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui me convainc dans ma tête. Ce pouvoir de résister à l'adversaire, il vient également de Dieu et de son esprit. Il ne faut pas sortir d'une épreuve en disant « c'est grâce à moi, j'étais fort hein. ». Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est grâce à Dieu et par son Saint-Esprit qui va m'aider, me consoler et me faire tenir ferme. On ne doit pas être prétentieux en comptant sur nos forces. Hein. Tout vient de Dieu. Que ce soit dans l'épreuve, ce que vous faites dans l'Église, ce que vous faites dans votre vie, tout vient de Dieu. On ne peut pas être orgueilleux en tant que chrétien. Et pourtant. Car il nous a fait la grâce de croire en lui. En ça, on l'accepte. Hein, cette grâce qui a remis notre dette, qui nous a pardonné et qui nous sauve. Elle vous a été donnée gratuitement, il est dit, hein, de croire. Mais alors ça, souvent, on accepte cette grâce qui nous a été donnée. Mais après, il dit aussi la grâce de souffrir avec lui. Ça, on l'oublie souvent. Hein. On accepte la grâce, mais aussi de souffrir avec lui. Croire en Dieu, je pense que ce n'est pas grâce à vous que vous avez cru un jour en Dieu, hein, parce que c'est impossible, nous dit Romains 3, 11. Hein. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Des fois, j'entends dans les témoignages, j'ai trouvé Dieu, c'est lui qui vous a trouvé, même si ça donne l'apparence que c'est vous. Mais c'est toujours Dieu qui nous a tapé un jour sur l'épaule, et d'une manière ou d'une autre, nous a conduit à lui. Dieu nous a sauvés par sa parole et par son esprit pour nous convaincre. Tout vient absolument de Dieu. Mais il nous demande à présent de souffrir aussi à cause de cette grâce, de souffrir avec lui. Et dans cette souffrance, hein, Paul, il emploie un temps là, mais ce n'est pas une souffrance ponctuelle, c'est une souffrance de toute une vie. Est-ce que je suis prêt à souffrir tous les jours pour Jésus-Christ ? Alors, ça, il ne s'agit pas simplement de souffrir dans une prison, mais simplement d'obéir à Dieu. Ça peut devenir une souffrance des fois. Est-ce que vous êtes tout le temps obéissant à Dieu ? Il y a quelqu'un de parfait, hein ? Non. Et vous êtes comme moi, parfois, c'est pénible d'obéir à Dieu. Hein, c'est une souffrance. Après, il y a de plus grandes souffrances, mais déjà celle-là. Et Paul dit, justement, il est un peu le référent, là, il parle d'un combat dans le passé. Il dit, ce que vous m'avez vu soutenir. Donc, il dit, voilà, je souffre dans le passé déjà, mais aussi un combat dans le présent, puisqu'il dit, ce combat que je soutiens encore. Et alors, à ce moment-là, il est en prison. Je crois qu'il ne faut pas rêver qu'un jour, il n'y aura plus jamais de combat dans notre vie chrétienne. L'armistice, c'est au ciel. pas avant. Je suis désolé de vous annoncer de mauvaises nouvelles comme cela, mais vous combattrez jusqu'au bout de votre vie, et moi aussi. Alors il y aura des combats plus ou moins soutenus, mais la fin, ça se fera quand on sera auprès de Jésus-Christ. Donc, si on baisse déjà les bras pour le premier combat, là, je vais vraiment vous déprimer ce matin, je suis désolé, hein, mais c'est la réalité. Et Paul lui-même, on aurait pu dire quand même à un moment, après tout ce qu'il a déjà subi, eh ben, jusqu'à la fin, il va souffrir, hein, et il sera condamné à mort avant de rejoindre son Seigneur. Et il est là notre référent, quelque part. La grâce de souffrir pour lui, c'est une grâce que de souffrir pour lui, nous dit la Bible. Et qu'est-ce que c'est que quelques souffrances sans comparaison de la mort de Jésus-Christ ? Vous avez déjà eu des clous dans vos mains ? Alors, pas le petit clou qu'on s'est planté après 20 ans, on est bien d'accord. Mais pendu à des clous et dans les pieds et de souffrir comme cela. Et comme l'a très bien dit Rémi, alors qu'on n'était pas quelqu'un de bien. Hein, et il m'a aimé à ce moment-là. Moi, des fois, je dis, cette épreuve, ça me saoule. Hein. Hein, c'est dommage qu'on n'ait pas la croix de temps en temps devant nous. Hein, qu'on voit la douleur qu'il a acceptée pour moi, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ces petites souffrances que nous vivons en tant que chrétiens en comparaison de la souffrance du Christ pour nous. Ne nous demande pas de souffrir ce qu'il a souffert, on ne pourra de toute façon pas, mais quand même de temps en temps, il faut arrêter de nous plaindre, de gémir. Hein. Lui, il a bien accepté de le faire, alors même qu'on ne l'aimait pas. C'est ça, alors que nous, on l'aime aujourd'hui. Et puis surtout, si vous voulez mettre Jésus de côté, bah, votre vie elle va devenir encore plus douloureuse, à mon avis. Hein. Parce que si je ne veux pas souffrir pour Christ, bah, je crois que la souffrance, elle va être encore plus grande. Donc il y a quand même une grâce, quelque part, de souffrir pour Christ, parce que non seulement on va lui faire honneur, mais en plus, c'est tellement facile, puisque c'est lui qui va tout faire. Trop simple. Enfin, trop simple. C'est lui qui va me soutenir, c'est lui qui va m'aider à marcher jusqu'au bout. Donc cette grâce donne la possibilité de tenir ferme dans le combat. C'est Paul qui le dit, c'est Paul qui le démontre. Il y a tant d'autres chrétiens qui l'ont démontré aussi. Donc c'est possible de combattre, c'est possible de lutter dans notre vie pour Jésus-Christ. Mais évidemment, il faut saisir cette grâce. Si je n'accepte pas que Dieu m'aide, si je suis en train de gémir ou de râler, je n'accepterai pas l'aide. Je vais me battre contre Dieu. Et à ce moment-là, forcément, je vais avoir l'impression de perdre le combat. Pour terminer, le combat est le lot de tous les hommes. Je ne parle pas de chrétiens, mais je parle de tous les hommes. Si vous n'êtes pas chrétien, vous allez souffrir. Si vous êtes chrétien, vous allez souffrir. Mais la grande différence, c'est qu'en tant que chrétien, moi, quand je souffre, j'ai quelqu'un qui m'aide, j'ai quelqu'un qui me soutient. Et ça, ça change absolument la vision du combat, la vision de l'épreuve. On devrait se réjouir qu'un jour, en ce moment, on a des combats sur la terre, mais qu'un jour, tout ça, ça va s'achever. Un jour, c'est fini, tout ça. Ça vous réjouit ? Vous êtes pressé ?
Oui.
Attention, parce que si le Seigneur vient là un coup... Vous ne mangez pas à midi, hein. Ah oui. Nous, ça s'achèvera au ciel. Pour d'autres, ça s'achèvera en enfer. Terrible qu'on y pense. Donc on a toutes les raisons de nous réjouir, même si les combats sont difficiles, parce qu'on sait la fin de tout cela. Réjouissons-nous aussi d'avoir des frères et des sœurs qui combattent avec moi. Parce qu'on est unis, selon ce que dit l'apôtre Paul, parce qu'on est unis en Jésus-Christ. Et quand je suis dans la difficulté, je peux saisir la main d'un frère, d'une sœur, et essayer de me battre avec eux pour en sortir. Profitez-en. Hein. Pas que moi, hein. Il y en a d'autres. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être des affinités, avec quelqu'un avec qui vous avez confiance aussi. Mais quand vous êtes dans l'épreuve, ne restez pas seul. Combattez à plusieurs. Hein. Réjouissez-vous aussi de ce que Dieu a fait, la grâce de pouvoir tout supporter. Hein. Il n'y a pas d'épreuve au-delà de nos forces. J'aime pas ce verset. Parce qu'en fait, toutes les épreuves qui m'arrivent, elles sont possibles. C'est ce que dit ce verset, en fait. Hein? Et quand ça vous semble, Dieu dit, tu peux y arriver. Parce que c'est moi qui vais te soutenir. Parce que c'est moi qui vais t'aider. Et quelque part, il m'honore aussi en disant que je peux. Il sait que je suis capable de souffrir certaines choses juste pour lui. C'est quand même merveilleux qu'on y réfléchit un petit peu. Mais je peux, parce que Dieu va m'aider, parce que cette grâce sera avec moi. Alors acceptons le combat, tout simplement parce que nous sommes déjà vainqueurs. On va prier. Seigneur, merci pour l'apôtre Paul, et malgré qu'il soit en prison, il ne se démoralise pas, ne se décourage pas. Et au contraire, c'est lui qui nous donne des forces et qui nous encourage dans le combat de cette vie chrétienne. Seigneur, tu connais nos combats, chacun d'entre nous. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais tu le dis, tu nous aides par ton esprit, par ta grâce. Seigneur, tu vas nous accompagner, tu vas nous aider à lutter jusqu'au bout et à avoir évidemment des victoires grâce à toi. Seigneur, nous avons beaucoup d'adversaires, et le premier étant nous-mêmes, et peut-être aussi ceux qui s'opposent à ta parole. Et nous prions de lutter avec joie, avec force aussi, pour que ces adversaires, un jour aussi, t'acceptent dans leur vie, Seigneur, et à leur tour se mettent à proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, apprends-nous à arrêter de gémir, de râler, de croire que l'on est faible, parce que tu veux nous rendre forts, parce qu'en toi nous sommes absolument vainqueurs, et nous voulons te remercier de cette assistance que tu nous accordes chaque jour. Bénis nos combats, Seigneur, aide-nous à lutter, et tout cela pour ta gloire. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.